Salut à vous. Au cours des dernières années, et là je ne vous apprends rien, notre monde a tellement changé. Et il continue de changer. Et ça va s'accélérer dans tous les aspects de la société et sur la grandeur de la planète. Ce qui crée de l'instabilité et de l'incertitude. Dans un tel contexte, sur qui peut-on compter? À qui peut-on vraiment faire confiance? D'où le thème et le titre de mon message aujourd'hui. À qui faire confiance? À nos systèmes économiques? Nos systèmes économiques, ils sont de plus en plus incertains et ils sont de moins en moins contrôlables. Et ceux qui les administrent ont de moins en moins de leviers pour faire marcher les choses. Est-ce qu'on va se fier à nos gouvernements? Qui sont littéralement de plus en plus dépassés par les situations, par l'ampleur et la multiplication des problèmes, c'est ce qu'on voit. Est-ce qu'on va se fier à nos systèmes de santé qui sont déjà débordés et qui ne suffisent plus à répondre aux besoins? Et ici, en ce qui nous concerne, c'est rien. Quand vous regardez du côté de la France et quand vous regardez du côté du Royaume-Uni, c'est pire. Au Royaume-Uni, le système est prêt de s'effondrer totalement. Il y a des gens qui sont morts en attendant d'être triés à l'entrée des hôpitaux cette semaine au Royaume-Uni. Il existe une seule source sûre de confiance absolue pour nous aider à traverser les temps présents et ce qui vient. Et cette source-là, vous la connaissez. C'est le Dieu Tout-Puissant de l'univers. Lui, il est en contrôle de tout. Il est en charge et il est en contrôle absolu. On peut totalement se fier à lui. Il a laissé aux êtres humains 6000 ans pour faire leur expérience, comme ils avaient choisi, comme ils avaient voulu le faire. Et on arrive maintenant à la fin de ces expériences malheureuses que lui a permis. Mais à l'intérieur de l'histoire, il est intervenu selon son plan, parce que son plan est déterminé et il va le faire se réaliser. Et ça va se terminer par le retour prochain du Christ, pour empêcher justement l'humanité de se détruire totalement. Et dans sa parole, il y a des promesses extraordinaires, tellement encourageantes, et des promesses infaillibles pour les personnes que Dieu appelle actuellement à le connaître et à marcher dans ses voies. Pour ceux et celles qui acceptent de mettre en pratique ces lois dans leur vie et qui lui font confiance, qui font confiance au Tout-Puissant. Et cette confiance-là s'appelle la foi. La confiance, c'est la foi. Vous regarderez le sens des mots, ça s'équivaut. Et c'est d'une importance absolue de placer notre foi ou notre confiance dans le gouverneur de l'univers qui peut toute chose et qui est en contrôle parfait. C'est absolument nécessaire qu'on le fasse. Et c'est là qu'est notre assurance. C'est là qu'est notre consolation. C'est là qu'est notre soutien. Placer notre confiance ou notre foi dans Dieu et agir selon ses enseignements. Comme on va voir, ça va absolument ensemble. Spirituellement, là, la foi véritable pour nous, c'est l'évidence. C'est la certitude. C'est l'assurance des vraies choses, des réalités durables et solides qui vont perdurer éternellement. C'est là notre assurance, notre certitude, notre évidence. C'est dans la foi de Dieu. Et je vais plus loin. C'est dans la foi, je la précise, c'est dans la foi du Christ. C'est pas dans votre foi et c'est pas dans ma foi. Peut-être ça vous surprend que je mentionne ça comme ça, parce que vous avez de la foi et j'ai de la foi. Quand Dieu nous a appelés, on s'est servi de notre foi au point de départ, de notre petite foi très limitée sur le plan humain. Dans notre petite foi ou notre petite confiance, on a fait confiance à Dieu et on a dit, « Oui, je commence à comprendre ce que tu me donnes, je veux faire ta volonté. » Et c'est par notre foi, qui est notre choix personnel de départ, qu'on a commencer à marcher dans les voies de Dieu. Mais cette foi humaine-là est très limitée et elle ne peut pas nous amener très loin. Et c'est pour ça qu'on a besoin, comme on va voir aujourd'hui, de la foi du Christ en nous. Et celle-là va nous donner l'assurance d'aller au bout. Et celle-là nous aide à voir ce qu'il faut voir, à comprendre ce qu'il faut comprendre et à avoir le courage de mettre en pratique ce que Dieu nous montre à faire. C'est ça. Mais notre foi, c'est juste le point de départ. On décide de faire confiance à Dieu. Mais après, il faut que le reste nous soit donné. Tout le reste nous vient de lui. Allez à Galates, chapitre 2. Galates, chapitre 2. Galates, chapitre 2. C'est un verset que M. Meredith a mentionné tellement, tellement de fois. Vous vous en rappelez sûrement, les plus vieux parmi vous, même ceux qui sont depuis quelques années, mais qui ont entendu les derniers sermons de M. Meredith. Il revenait constamment là-dessus. Il y a une raison. Vous vous rappelez quand M. Armstrong revenait constamment sur les deux arbres? Les gens disaient, ben pourquoi il parle de ça aussi souvent? Pourquoi il revient là-dessus? C'est le même principe ici en ce qui concerne M. Meredith, qui est revenu sur Galates 2:20 de nombreuses fois. Parce que ce qu'il y a là, même si ça paraît simple au point de départ, il y a une profondeur là-dedans qu'on a besoin de creuser pour le comprendre. Et on a besoin de l'aide de Dieu pour le faire, bien sûr. Mais regardez ce qui nous était rappelé par M. Meredith. Galates 2, verset 20. « J'ai été crucifié avec le Christ. » Quand est-ce qu'on peut dire « J'ai été crucifié avec le Christ » C'est quand on est baptisé. Après avoir été appelé, qu'on voit les choses qu'on a à changer, qu'on voit qu'on a causé la mort de notre Créateur par nos fautes, on veut être pardonné de toutes nos fautes, lavé de nos péchés, et il y a seulement le sang du Christ qui peut nous laver de nos fautes. Et c'est pour ça que quand on passe par les eaux du baptême, c'est comme si on était plongé dans le sang du Christ et lavé totalement par le sang du Christ. Et à ce moment-là, on peut dire, j'ai été crucifié avec le Christ. Je suis passé par son sacrifice pour que Dieu me pardonne. Et après, regardez la personne qui a passé par les eaux du baptême, après ça, et si je vis, parce que je continue à vivre physiquement dans la chair après, et si je continue à vivre dans la chair, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et ça, c'est très important, c'est toute la différence est là. Après ça, quand j'ai été baptisé, qu'on m'a imposé les mains, que j'ai reçu le Saint-Esprit de Dieu, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Le Christ Tout-Puissant, le Sauveur de l'humanité, celui qui l'a créé d'après l'ordre établi avec son Père. C'est le Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, parce que je continue encore à être physique, je vis dans la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. La phrase telle que je viens de vous la dire dans la Louis II n'est pas tout à fait exacte. Je reviens là-dessus parce que la phrase dans le sens original, c'est ceci. Si je vis maintenant, c'est-à-dire étant donné que je continue à vivre dans la chair, je vis par la foi. Moi, je l'ai corrigé dans ma Bible parce que le sens original, c'est pas « je vis dans la foi », mais « je vis par la foi ». Je l'ai écrit au-dessus du mot « dans ». « Je vis par la foi ». Pas au Fils de Dieu, mais du Fils de Dieu. J'ai mis un « du » en haut du mot « au », là, « a-u », du Fils de Dieu. Alors, la vraie phrase, c'est celle-ci. C'est le Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis par la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Ça, là, et c'est pour ça que je vous donne le message d'aujourd'hui pour qu'on approfondisse comme il faut cette déclaration-là, du moins plus, pour qu'on le comprenne. Parce que ce n'est pas un thème facile à saisir. Ça peut sembler facile au premier abord, mais on va aller plus loin tantôt, vous allez voir. Ça peut sembler facile à saisir, mais il faut du temps et il faut de la réflexion pour être capable de comprendre les tenants et aboutissants ou tous les aspects de cette si profonde déclaration qui fait toute la différence pour ceux qui sont appelés. Parce qu'en tant qu'appelés, c'est décourageant quand on se regarde de voir qu'avec les faiblesses qu'on a, avoir une côte si haute à monter pour arriver à la vie éternelle et pour marcher vers la perfection. Par contre, il y en a un qui a la vie éternelle et qui est parfait. C'est le Christ. Et c'est lui qui dit, « Je vis en vous. Prenez-en conscience et comptez sur moi. » Et c'est pour ça que je vous donne le message aujourd'hui, pour qu'on approfondisse cette importante et puissante déclaration. Ce n'est plus vous qui vivez, c'est le Christ qui vit en vous. Et pour les personnes nouvelles qui ne sont pas baptisées, le Christ est avec vous parce qu'il a mis son esprit autour de vous pour que vous commenciez à comprendre les choses de Dieu. Sans ça, vous ne les comprendriez pas. Vous commencez à les comprendre parce que déjà le Christ vous enveloppe de sa présence, de son esprit, en attendant de placer son esprit dans vous. C'est ce que la Bible nous montre. Alors, cette foi-là, la foi du Christ, la foi de Jésus, on ne l'a pas. Donc, elle doit nous être donnée. On doit la recevoir. Je veux vous montrer tout le processus pour qu'on s'en serve et qu'on l'utilise comme il faut. Éphésiens 2. Allez à Éphésiens chapitre 2, s'il vous plaît, juste un peu plus loin. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Car c'est par la grâce, par la bonté de Dieu, par sa miséricorde, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. On n'est pas sauvés actuellement, parce qu'on sait que le salut, c'est le fait de recevoir la vie éternelle, et que ça nous sera donné si on est fidèle seulement au retour de Christ. Le sens original de ça, c'est que nous sommes en train d'être sauvés quand Dieu nous appelle et qu'on commence à mettre en pratique ce qu'il nous montre. Alors, je relis la phrase dans ce sens-là. C'est par la grâce, la miséricorde de Dieu et son amour que vous êtes en train d'être sauvés. Maintenant, comment? Par le moyen de la foi. On revient encore là-dessus. C'est seulement la foi qui peut nous mener au salut, mais pas votre foi ni la mienne, la foi de Christ, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Alors, il faut que la foi de Dieu, la foi du Christ, nous soit donnée. Il faut qu'elle nous soit donnée. Demandez et vous recevrez. Et c'est pour ça qu'il nous faut régulièrement demander à Dieu de nous donner la foi du Christ, de nous donner son courage, son amour pour notre Père et pour les autres. Parce que là, à ce moment-là, le Dieu de l'univers nous répondant, le Christ sera en nous, sa foi sera en nous, et nous aurons la force nécessaire pour traverser les épreuves et avancer. Demandez et vous recevrez. Parce que c'est une chose que beaucoup de membres de l'Église ne pensent pas à demander à Dieu la foi du Christ. Parfois, ils vont demander la foi, mais ils ne réalisent pas que c'est la foi du Christ qu'ils ont besoin. Alors, Dieu, donne-moi la foi de ton Fils. Ou on peut même des fois en parler à Christ directement. Moi, des fois, ça m'arrive de demander à Dieu, donne-moi ta foi. Donne-moi de voir les choses comme toi tu vois. Donne-moi d'être capable de faire les choses comme toi tu les ferais dans ma situation. Donne-moi ta foi. Ton courage, ton zèle, ton amour, pour que je puisse en vivre. Autrement dit, habille-moi de ce que tu es, de ton caractère. On va aller plus loin, pour mieux comprendre vraiment ce qu'est la vraie foi. Et là, je ne m'adresse pas seulement aux nouvelles personnes, mais aux anciens, puis je dirais même aux plus anciens. Parce que c'est surprenant, il y a des fois, il y a des gens dans l'Église qui sont là depuis longtemps et qui ne comprennent pas totalement le concept dont je vous parle. Et si on le comprend vraiment, comprenez-vous qu'on peut l'utiliser de meilleure façon avec de meilleurs résultats. Quand on sait qu'il y a un outil qui existe et quand on sait comment s'en servir, ça donne des résultats. Et c'est pour ça que je vous donne le message d'aujourd'hui. Allez dans Hébreux, chapitre 11. Le fameux chapitre qui parle de la foi et qui donne plusieurs exemples de personnes qui ont été les héros de la foi. Hébreux, chapitre 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration ou une preuve, si vous voulez, de celles qu'on ne voit pas. Mais là, je reprends la phrase. pour que vous saisissiez la dimension de ce que je veux vous expliquer. Or, la foi de Christ est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous et moi, nous espérons le retour de Christ. Est-ce que nous l'avons vu? Non. Si on l'espère, comprenez-vous que ça nous est donné et que ça nous est donné par la foi de Christ en nous. Parce que lui, il sait que son retour existe. C'est lui qui l'a déterminé avec son Père. Et c'est lui qui va revenir pour établir son gouvernement sur la terre. Alors comprenez-vous que la foi de Christ est une ferme assurance des choses qu'on espère, qui s'en viennent, et une démonstration, une preuve de celles qu'on ne voit pas. C'est ça. C'est comme si le Christ le voyait, le pensait, l'attendait, l'espérait. Et c'est ce que nous prenons sur nous lorsque le Christ vient en nous. Verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. Et c'est le Christ qui a créé tout l'univers qui existe, tout ce qui existe, selon le commandement de Dieu. Toute chose a été créée par lui et pour lui. Comprenez-vous? Alors c'est par la foi de Christ que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole du Christ, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ça vient pas d'un monde visible, mais d'un monde qui est invisible aux yeux humains. On n'était pas là quand le Christ a proclamé de sa voix que la lumière soit et que la lumière est venue. Absolument pas. Mais nous le savons pourquoi? Par la foi du Christ en nous, qui, lui, a prononcé ces paroles-là et les a fait se réaliser. Alors, nous voyons ces choses-là comme le retour de Christ, comme le fait que Dieu a créé toutes choses, que le Christ a créé toutes choses. On voit ces choses-là avec les mêmes yeux que le Christ les voit, quand on a la foi du Christ en nous. Comprenez-vous pourquoi on peut dire ça? Pourquoi on peut dire qu'on voit les choses avec les mêmes yeux que le Christ les voit quand on a le Christ en nous? Parce qu'on voit à travers ses yeux. Et voilà l'essentiel de tout le mécanisme de notre changement de vision. Il y a une très belle explication de ça, de ce phénomène-là, dans 1 Corinthiens chapitre 2. Retournez dans votre Bible à 1 Corinthiens chapitre 2. Il y a une très belle explication de ça ici. Parfois, on va dire, « Ah, j'ai compris telle chose dans la Bible. » Si vous comprenez cette chose-là, vous ne le dites peut-être pas de la façon exacte. Parce que c'est pas vous qui avez compris. C'est pas vous qui avez compris. Il vous a été donné de comprendre. Voyez-vous la différence? Mais c'est sûr que dans notre langage courant, on dit, « Ah, j'ai compris telle affaire, là, j'ai lu, puis j'ai vu ça, j'ai compris. » Des fois, je vais reprendre quelqu'un pour que la personne voit que ça lui a été donné, que c'est précieux qu'elle comprenne ça, parce que Dieu lui a donné de comprendre. Mais voyons l'explication du phénomène ici dans 1 Corinthiens 2, verset 12. « Or nous, les gens de l'Église, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, son Saint-Esprit. Mais nous avons reçu l'Esprit qui vient de Dieu. » Pourquoi Dieu nous a donné son Esprit et pourquoi il nous donne son Saint-Esprit, sa puissance? Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Voyez-vous comment on peut connaître les choses de Dieu? Par son Saint-Esprit. Absolument. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit de Dieu, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais je vais plus loin, verset 14. Et là, il va faire une distinction importante. Mais l'homme naturel, c'est-à-dire l'homme simplement avec sa nature humaine, avec son cerveau humain, qui peut faire des belles choses, mais qui est extrêmement limité et totalement limité quand il est question des choses spirituelles. Ça, il ne peut pas les comprendre. C'est ce qu'il va dire ici. Mais l'homme naturel, l'homme qui n'a pas l'Esprit de Dieu, n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. Pourquoi il n'est pas capable? Il n'est pas capable parce qu'il n'a pas l'Esprit de Dieu pour les comprendre. C'est pas dans ses cordes ou dans ses capacités. Et il va plus loin, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Pour comprendre les choses spirituelles, pour les évaluer, il faut avoir l'Esprit de Dieu avec nous ou dans nous. Sans ça, c'est pas possible. Et c'est pour ça qu'il dit que les choses de Dieu, les choses spirituelles, sont une folie pour les gens autour de nous qui ne sont pas appelés pour l'instant. Dieu va les appeler plus tard. Lui, il sait quel est le meilleur moment pour appeler chacun des êtres humains. Parfois, on aimerait qu'un proche soit appelé maintenant, mais on peut demander à Dieu. Mais on ne peut pas forcer les choses, ni tenter de convaincre les autres. Faut pas faire ça. Parce que ça appartient à Dieu. Et à ce moment-là, les gens qui ne sont pas appelés, même s'ils peuvent être très sympathiques et des bonnes personnes, dans beaucoup de cas, ne peuvent pas comprendre ce que vous comprenez et ils vous trouvent bizarre de comprendre ce que vous comprenez et de penser ce que vous pensez, puis de changer ce que vous changez dans votre vie. Ils ne peuvent pas comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. C'est-à-dire, c'est avec l'Esprit de Dieu au niveau spirituel qu'on peut connaître et évaluer ces choses-là. Et regardez le verset 15. Je vais vous le lire tel quel, puis après je vais vous dire comment ça doit être écrit, parce que dans la Louis II, c'est pas tout à fait, ça donne pas le plein sens. Verset 15. L'homme spirituel, l'homme donc qui a l'Esprit de Dieu, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. C'est bizarre comme phrase. Ça veut dire quoi? L'homme spirituel juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. On va aller voir dans d'autres versions ce qui correspond à l'original et vous allez voir que ça a beaucoup plus de sens. Quand vous allez dans la version anglaise Moffat, par exemple, je vais vous la donner en anglais ici. The spiritual man, donc l'homme qui a l'Esprit de Dieu, can read the meaning of everything. OK? L'homme qui a l'Esprit de Dieu peut comprendre toutes les choses de Dieu. Progressivement, c'est ça. L'homme qui a l'Esprit de Dieu peut comprendre les choses de Dieu. Et l'autre partie de la phrase, toutefois, personne ne peut comprendre qui il est. Personne ne peut comprendre qui il est. Voyez-vous toute la différence? C'est que celui qui a l'Esprit de Dieu comprend les choses de Dieu, ce que je vous ai expliqué tantôt, mais la personne à côté, qui n'est pas appelée pour l'instant et qui n'a pas l'Esprit de Dieu, non seulement ne peut pas comprendre les choses de Dieu, mais ne comprend pas celui ou celle qui est appelé par Dieu et qui change des choses dans sa vie. C'est pas comprenable, c'est une folie aux yeux de cette personne-là. Et c'est sincère. Allez dans 1 Jean, gardez votre place ici parce qu'on va revenir. Mais allez dans 1 Jean, chapitre 3. 1 Jean, chapitre 3. Et on aura une autre explication concernant ce phénomène-là. 1 Jean chapitre 3, et nous allons lire le verset 1. L'apôtre Jean dit ceci, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Et c'est fantastique, et c'est vrai qu'il faut que le Père nous ait aimés. On était des ennemis avant, on ne voulait rien savoir de lui. Et il dit, « Voyez de quel amour il nous a aimés pour que maintenant, une fois qu'on a été appelé et qu'on se met à vivre selon ses lois, il nous appelle ses enfants. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et là, j'arrive sur le bout de phrase que je voulais vous expliquer. Et nous le sommes ses enfants. Si le monde ne nous connaît pas, comme je viens de vous expliquer, l'homme naturel ne connaît pas les choses de Dieu et n'accepte pas que quelqu'un change autour, ne comprend pas ces changements ou ces nouvelles façons de penser. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. C'est que le monde n'a pas connu le vrai Dieu et que Dieu ne l'a pas appelé, tout simplement. Alors, ça dit un peu la même chose que je vous expliquais dans 1 Corinthiens, chapitre 2, tantôt. Tout ça se tient. Revenez à 1 Corinthiens, chapitre 2. Et là, on a notre petite phrase de verset 15. L'homme qui a l'Esprit de Dieu comprend les choses de Dieu et ceux autour ne le comprennent pas. Ne le comprennent pas lui et ne comprennent pas les choses de Dieu parce que Dieu ne les a pas appelés encore. Verset 16. « Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Et regardez la fin de la phrase. Or, nous, que Dieu a appelés, qui sommes à son Église, nous avons la pensée de Christ. Nous avons la pensée de Christ. Verset 16, à la fin du verset. Pourquoi nous avons la pensée de Christ? Parce que le Christ est en nous. Et c'est pour ça que nous avons sa pensée. Allez juste un peu plus loin, dans 2 Corinthiens, le chapitre 4. Quelques pages plus loin. 2 Corinthiens, le chapitre 4. Dans ce passage-là, l'apôtre Paul le décrit très bien de façon très encourageante. 2 Corinthiens, chapitre 4. Et regardez ce qu'il dit au verset 7. Nous, qui sommes les appelés, à qui Dieu révèle la vérité, à qui il donne son esprit pour comprendre, nous portons ce trésor, cette compréhension-là, dans des vases de terre. Et nous sommes des vases de terre. D'ailleurs, quand nous mourons, nous retournons complètement vases. Et nous retournons complètement terre. C'est exactement ça. Nous portons ce trésor, cette vérité merveilleuse en nous, des êtres humains, dans nos vases de terre, dans les vases de terre que nous sommes, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Tout vient de lui. Cette grande puissance-là, elle est attribuée à Dieu et non pas à nous. Je peux pas dire, ça je vous disais ça tantôt, je peux pas dire, j'ai compris telle chose. C'est pas parce que j'ai l'intelligence de comprendre, ni que je suis meilleur qu'un autre, ou quoi que ce soit, c'est parce que ça m'est donné. Ça confirme ça encore ici. Afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. Allez un peu plus loin, dans le même chapitre, mais au verset 16. 2 Corinthiens 4, verset 16, juste un peu plus loin. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, parce qu'on vit dans des limitations. On vit dans toutes sortes de problèmes. On a des épreuves à rencontrer, des difficultés à traverser. Et même si notre homme extérieur se détruit, et chaque jour il se détruit, quand on a 15, 20 ans, 30 ans, notre homme extérieur ne se détruit pas tellement. Mais quand on avance en âge, on se rend compte que la machine physique est diminuée et commence à faire défaut à certains égards. Et si notre homme extérieur se détruit, pendant ce temps-là, si nous sommes fidèles à Dieu, notre homme intérieur, lui, se renouvelle de jour en jour. Et c'est là qu'est l'importance vers la vie éternelle. La nouvelle personne que nous devenons quand nous mettons en pratique les lois de Dieu. Nous développons quoi? Le caractère de notre grand frère qui est en nous. C'est ça. On développe son caractère, sa personnalité chrétienne, en revêtant le Christ, comme la Bible nous dit, parce qu'on l'imite dans tout ce que nous pouvons. On devient ses imitateurs. Verset 17. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Si on tient bon, malgré les épreuves, et qu'on compte sur lui, on s'en va vers une gloire extraordinaire. Verset 18. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, on revient encore à ça, on ne regarde pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles et qu'on attend, dont on est certain. Car les choses visibles sont passagères. Tout ce que vous voyez autour de vous va disparaître, y compris notre propre vie, si le Christ ne vient pas avant que nous décédions. Ça peut arriver dans le cas d'un certain nombre, parce que les choses avancent et le Christ va revenir bientôt. Mais il dit, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Le caractère que vous et moi, nous sommes en train de développer, c'est ça qui va demeurer dans l'éternité pour que nous continuions à vivre avec le caractère parfait que Dieu veut que nous ayons. Juste un peu plus bas dans la même page, 2 Corinthiens 5, versets 4 et 5. Car tandis que nous sommes dans cette tente, c'est intéressant l'image qui est donnée ici, notre corps c'est comme une tente, on est là temporairement à l'intérieur. C'est ça, on habite une tente qui est passagère là. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, bien sûr, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Je précise, afin que ce qui est mortel, ce qui est temporaire, ce qui est passager dans notre vie, soit englouti par la vie éternelle, soit remplacé par quelque chose de durable, qui va durer éternellement, que Dieu veut nous donner, la vie éternelle. Verset 5. Et celui qui nous a formés pour cela, il nous a donné la vie, dans le but de nous donner la vie éternelle. Pour tout de suite, il nous a donné une vie physique temporaire, très limitée. Mais il veut nous donner une vie illimitée sur le plan spirituel, dans la gloire. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. Les arts, c'est le dépôt. Parce que quand on est baptisé, on reçoit un peu de son Saint-Esprit. Le dépôt de son Saint-Esprit. S'il nous le donnait totalement, nous deviendrions des êtres totalement spirituels. Ce qui va nous arriver au moment du retour de Christ, si nous sommes fidèles, il va nous rendre totalement spirituels. Nous ne serons plus physiques. Bien sûr, on pourra reprendre notre corps physique pour faire les travaux qu'on aura à faire, puis enseigner les gens, mais on deviendra totalement spirituel. Alors, Dieu nous a donné un dépôt de son Saint-Esprit au moment du baptême, qui est un point de départ vers la continuation. Verset 6. Nous sommes donc toujours pleins de confiance. Et là, le petit bout de phrase après, il a été comme ajouté. Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. C'est comme si Paul disait, pour le moment, j'aimerais mieux être avec Dieu, vraiment personnellement, directement, mais on est encore dans la chair humaine. Alors, je mets la phrase comme elle doit aller. Verset 6, nous sommes donc toujours pleins de confiance. Et là, allez au verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Ou si vous voulez, la suite du début de la phrase, ça commence au verset 7 ensuite. Nous sommes donc toujours pleins de confiance, car nous marchons par la foi et non par la vue. Il y a deux façons de marcher. Et ça revient souvent, ça, dans les explications qui nous sont données. Première façon, par la vue. Ça, c'est humain. Ce qu'on peut voir physiquement, ce qu'on peut voir autour, tout ce qu'on peut déceler, ce qu'on peut penser avec l'homme naturel, l'homme qui n'a pas l'Esprit de Dieu. Ça, c'est de avancer par la vue, les choses qui sont tangibles, qui sont palpables, qui sont visibles, selon notre logique humaine, avant que Dieu nous appelle. Et la deuxième façon de marcher, et c'est à ça que Dieu nous appelle, c'est de marcher par la foi. Mais pas par ma foi à moi, parce que là, je ne marcherai pas longtemps. Et pas par votre foi à vous non plus, mais par la foi du Christ, qui a promis de nous rendre à terme si nous sommes fidèles. Voyez-vous? C'est ça la différence. La foi du Christ. Le cœur tourné avec confiance vers le but. Le but, c'est de recevoir la vie éternelle. Ça n'a jamais changé, selon le plan de Dieu. Et c'est pour ça qu'il est écrit à différents endroits dans la Bible, « Mon juste, c'est-à-dire celui qui pratique ma justice, vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi. » Allez à Hébreux, chapitre 10, s'il vous plaît. Hébreux, chapitre 10. Hébreux, chapitre 10. Voyez ce qui est écrit au verset 37. Ça parle de notre époque. Encore un peu de temps. Alors, Hébreux, chapitre 10, verset 37. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. C'est qui? C'est le Christ. Et pourquoi je dis que ça s'applique à nous aujourd'hui, cette petite phrase-là? Parce que ça parle de la période qui est juste avant son retour. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Bon, verset 38. Et mon juste, c'est-à-dire celui que j'ai appelé, c'est Dieu qui parle, celui qui devient mon enfant, vivra par la foi de Christ, pas par sa foi à lui. Il vivra par la foi de Christ. Mais s'il se retire, bien sûr, s'il cesse, s'il se détourne, je ne prends pas plaisir en lui. Et il risque, de tout perdre. Verset 39. Nous, de l'Église, qui sommes appelés, qui savons ces choses-là, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre ou pour tout perdre ou pour perdre la chance d'avoir la vie éternelle. Mais nous sommes de ceux qui ont la foi de Christ, pour sauver leur âme, pour avoir le salut. Le salut qui est le fait de recevoir la vie éternelle. Je reviens sur la petite phrase. Mon juste vivra par la foi. Il y a deux sens en même temps possibles. C'est que celui qui pratique la justice vivra par la foi de Christ qui, cette fois-là, lui permettra d'avancer vers le but, de tenir le coup. Ça va le motiver à tenir bon, malgré les hauts et les bas, les pertes, les victoires et tout ce que ça comprend. Et le deuxième sens, c'est que le juste atteindra la vie éternelle. Il vivra par la foi. Mais oui, il y a les deux dimensions. Il y aura ce qu'il faut pour se rendre là et il recevra la vie éternelle. Il y a les deux dimensions. Et quand vous regardez, pour avoir un exemple dans la Bible de ça, l'apôtre Paul était un homme convaincu, puis en même temps un homme qui a vécu des épreuves épouvantables. Il annonçait avec zèle puis courage le royaume de Dieu qu'il voyait par les yeux du Christ dans lui. C'est ça. Il en était convaincu, il en était certain. Malgré qu'il devait persévérer à travers de dures épreuves, des épreuves qu'il voyait tout autour de lui et dans sa vie par ses yeux humains. Et c'était indéniable. Il a été battu, il a été torturé, il a été lapidé, abandonné par les siens, emprisonné. Ça, c'est ce qu'il voyait avec ses yeux humains. C'est ce qu'il y avait autour de lui. Mais il y avait les yeux du Christ en lui qui lui garantissait le retour du Christ et l'établissement de son royaume. Et ça, il continuait à l'annoncer, même dans les chaînes, même en prison. Ce qu'il percevait par sa vue humaine, il le mettait en deuxième et gardait le focus ou l'attention sur la vision du Christ. Vous savez, il y a une réalité au-delà de ce que nous pouvons voir, mesurer, toucher. Il y a une immense réalité, beaucoup plus grande que la réalité physique, passagère, temporaire autour de nous. Je vous donne un exemple qui peut nous aider à comprendre sur le plan physique. Il existe des sifflets ultrasons pour entraîner les chiens. Il y en a peut-être qui connaissent ça. Ce qu'on fait avec ces sifflets-là, c'est qu'on fait résonner le sifflet. Et quand le chien, on habitue le chien à venir à nous quand on fait fonctionner le sifflet. Et quand le chien vient, bien sûr, il y a une récompense. Alors, il sait qu'il est récompensé quand il vient et qu'il entend le sifflet. Alors, ça fonctionne. On entraîne le chien, on fait résonner le sifflet et quand le chien l'entend, il vient. Sauf que il y a seulement les chiens qui peuvent entendre les sifflets ultrasons, mais pas les êtres humains. Alors, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a une autre réalité plus grande que ce qu'on voit à l'œil. C'est un exemple imparfait, mais ça vous donne une petite idée de ce qui se passe. C'est que le son, l'ultrason de ce sifflet-là n'est pas perceptible, si vous voulez, par l'oreille humaine, parce qu'il y a une fréquence spéciale de son que seulement les chiens peuvent percevoir. C'est formidable. Et là, le chien répond à la demande et il vient. C'est ça. Alors, la foi du Christ en nous, ça veut dire la même chose. C'est que nous percevons ou nous savons à ce moment-là des choses que les autres autour de nous ne savent pas et ne sont pas capables pour le moment de percevoir ni de comprendre. Ça, c'est la réalité. Et c'est important, je pense, que je vous donne ce type de message aujourd'hui pour que ça nous encourage aussi et ça nous aide à départager les situations par rapport aux gens qu'on aime autour et qui ne nous comprennent pas. Nous, on doit continuer, là. Et c'est tellement important qu'on continue, parce que si nous sommes fidèles, ce sera sans doute nous qui va les accueillir quand Dieu va les appeler. Si nous sommes fidèles. Si nous ne sommes pas fidèles, nous ne serons pas là, mais les nôtres seront appelés à leur tour et pourront y être. Alors, voyez-vous l'importance de comprendre ces choses-là puis de les utiliser pour être capable d'arriver au but. Pas juste pour nous, mais pour nos êtres chers. Tout ça, ça se tient. Parce que la foi du Christ, on voit dans plusieurs de ses serviteurs, ils l'avaient, ils l'ont utilisé et ils ont réussi de grandes choses. C'est le cas de Noé. Hébreux chapitre 11, voyons le verset 7. Parce que Noé, dans son cas, lui, il a perçu d'avance le déluge qui allait venir, mais qui n'était absolument pas visible Et c'est pas venu 6 mois après, là. Il a fallu qu'il prenne le temps de construire l'immense arche que Dieu lui avait dit de construire. Alors, c'était pas visible ce qui s'en venait. Par contre, pour lui, c'était visible. Il entendait le fameux sifflet à ultrasons, si vous voulez. Parce que le Christ en lui, lui avait révélé. Verset 7, Hébreux 11. C'est par la foi de Christ, que Noé, divinement averti par le Christ, des choses qu'on ne voyait pas encore. Il n'y avait pas de pluie, c'était sec. Et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient comment? Par la foi. Par la foi de Christ. Et pour Noé, cette foi-là a été la base de sa vie et il a agi en conséquence. Parce qu'il avait les yeux du Christ, il a agi en conséquence. Et ça, ça rejoint un autre principe biblique très important. Il faut qu'il y ait la foi et les œuvres. Il faut la foi et les œuvres. Vous avez vu cette expression-là à plusieurs reprises. Et la même chose est arrivée dans le cas d'Abraham que pour le cas de Noé. Allez au verset 8, juste un peu plus loin. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Voyez-vous, il a entendu la demande de Dieu. Il a eu confiance en Dieu et il a agi. Dieu lui a dit de partir, même s'il n'y avait pas toutes les explications, et il est parti. C'est ce qu'il a fait. C'est la même chose qui nous est arrivée, vous et moi, que Dieu a appelé. Quand Dieu nous a appelés, il ne nous a pas révélé tout ce qui nous attendait. Et il ne nous a pas fait connaître non plus tout ce que nous devions savoir à ce moment-là. C'est pour ça qu'on continue d'apprendre au fur et à mesure. Et c'est pour ça que c'est important, les saintes convocations. C'est pour ça que nos études chaque jour sont importantes, que nos prières sont importantes. Dans le fond, ce que Dieu a fait, il nous a appelés, il a dit, voici quels sont mes enseignements. Passez à l'action. La foi et les œuvres. Les deux doivent aller ensemble. Faire confiance à Dieu. Être patient aussi. Parce que Dieu a son temps pour répondre ou pour faire se réaliser certaines choses. Dans le cas d'Abraham, vous connaissez l'histoire, c'est que Dieu avait promis à Abraham d'avoir un fils. Et ça a pris de très nombreuses années avant qu'il ait ce fils promis, Isaac. Alors, il a fallu que Abraham fasse preuve de patience et de confiance et de foi envers Dieu qui avait dit « Tu auras un fils ». Il n'avait pas dit quand. Mais tu auras un fils. Alors, ça, c'est l'histoire d'Abraham et ça nous aide à voir ces choses-là plus clairement. Faire confiance à Dieu et parfois avoir beaucoup de patience. Parce que les choses n'arrivent pas toujours comme on les a pensées ou comme on les a désirées. Verset 9. Car Abraham attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Comment ça se fait qu'Abraham attendait cette cité-là? On voit par les textes que cette cité-là, la Jérusalem céleste, sera établie sur la terre seulement après le premier 1100 années du règne du Christ sur la terre, quand le Père viendra avec la Jérusalem céleste. Abraham savait, il attendait cette cité-là. Il le savait comment? Par les yeux du Christ, qui avait établi ce plan-là avec son Père. Il fallait que ça lui ait été révélé. Et c'est pour ça que c'est la même chose pour nous. Allez juste une page plus loin. Hébreux chapitre 13 et le verset 14. Car nous qui sommes appelés par Dieu, à qui Dieu révèle les choses, à qui Dieu donne son esprit, car nous n'avons point ici-bas de cité permanente. Il n'y a rien de permanent pour nous ici. Mais nous cherchons celle, la cité permanente qui est à venir. Même chose qu'Abraham, absolument même chose. Alors voyez-vous, il y a deux éléments inséparables et complémentaires pour arriver un jour à la vie éternelle. La foi et les œuvres. L'ensemble du monde ne comprend pas ça. Il y a plusieurs églises du monde qui disent, qui prétendent, sans le savoir, sans connaître qu'ils sont dans l'erreur, qu'il suffit de croire en Dieu. Non, il ne suffit pas de croire en Dieu. Absolument pas. Il suffit de croire Dieu et d'agir en conséquence. De croire ce que Dieu nous dit de faire et de le mettre en pratique. La foi et les œuvres. Quand nous demandons le baptême, c'est pourquoi qu'on demande le baptême? C'est parce que nous croyons ce que Dieu nous a révélé. Qu'on est pécheur, qu'on a l'amende éternelle sur nous, que si on n'est pas purifié de nos fautes par le sacrifice de Christ, qu'on est soumis à la mort éternelle, qu'on a besoin de cette miséricorde-là. Alors, c'est parce que Dieu nous a révélé ça qu'on demande le baptême et qu'on passe à l'action pour changer notre vie avec l'aide de Dieu. Ça, c'est les œuvres. On croit ce que Dieu nous montre et après on dit, moi, je veux y aller. Je veux appartenir à Dieu. Même s'il y a des difficultés, je vais lui demander son aide au fur et à mesure. Mais je veux faire sa volonté, quel que soit le prix. Et il nous aide. La foi, je crois ce que Dieu m'a montré. Et les œuvres, je passe à l'action. Vous savez, le principe derrière tout ça, il est très simple. C'est que l'être humain agit toujours selon ce qu'il croit. L'être humain agit toujours selon ce qu'il croit. S'il n'agit pas, ça signifie qu'il ne croit pas vraiment. Alors voyez-vous, quand Dieu révèle des choses à quelqu'un et que la personne ne passe pas à l'action, c'est qu'elle ne croit pas vraiment et l'appel ne va pas plus loin. Dans le cas contraire, quand la personne se met en marche, malgré les épreuves, les montagnes à traverser, Dieu l'aide et la personne est capable d'y arriver, non pas par sa force. Paul disait, « Je puis tout par celui qui me fortifie, par le Christ en lui, même chose pour vous, même chose pour moi. » Il ne faut pas l'oublier parce que c'est notre encouragement qui est là et c'est le résultat. Voyez-vous, si Noé avait dit à Dieu, merci Dieu de me dire qu'il y a un déluge qui s'en vient puis de bâtir ce grand navire-là, je te crois, mais je ne bâtirai pas de navire. L'histoire aurait été un peu différente. Je pense que vous n'avez pas de difficulté à vous l'imaginer. Ce que nous faisons, je résume ça en ces termes-là, toutes nos actions, là, ce que nous faisons, c'est simplement l'expression, la démonstration ou la preuve de ce que nous croyons. Ça se résume à ça. Et là, je vous pose une question. Notre confiance, notre croyance, est-ce qu'elle est basée sur ce que Dieu nous dit ou sur ce qu'on voit autour de nous? Est-ce que c'est un ou l'autre? Ce qu'on voit autour de nous, parfois, c'est menaçant. Et ça va devenir menaçant à un moment donné. Est-ce que je vais reculer à cause de ce que je vois? Ou si je vais tenir et demander à Dieu, aide-moi à continuer d'avoir les yeux du Christ en moi, d'avoir sa foi pour tenir bon. C'est là qu'est notre clé. C'est toujours dans Dieu, c'est pas dans nous. Parfois, les gens se demandent, ils disent, « Ah, M. Brochu, je sais pas si je vais être capable de tenir le coup. » Moi, pour les encourager, je leur dis tout de suite, « Vous êtes pas capable. Vous êtes incapable d'y arriver. Mais, je connais quelqu'un qui va pouvoir vous aider à y arriver. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Ou si on regarde autour, il peut y avoir des choses attirantes qui nous ramènent dans le monde, qui nous ramènent à nos anciennes tendances ou à nos anciens plaisirs, même si c'est pas des choses qui semblent terribles au point de départ, mais c'est le chemin qui mène chez elles. La Bible dit de pas emprunter le chemin qui mène chez la prostituée. Voyez-vous, la Bible dit pas dans les proverbes, rentrez pas dans la maison de la prostituée. C'est sûr qu'il faut pas y rentrer. Mais il dit, n'empruntez pas le chemin. Autrement dit, ne commencez pas à l'autre bout, simplement à y penser ou à faire des petits compromis qui pourraient vous amener à cogner à la porte pour entrer. OK? Ça commence très loin. C'est ce qu'il nous enseigne là-dedans. Alors, est-ce qu'on met notre confiance sur ce que Dieu dit ou ce qu'on voit autour comme chose attirante qui pourrait nous plaire pour un temps seulement, ou qui pourrait être menaçant et qui pourrait nous amener à reculer puis à dire « Non, le Christ, je ne le connais pas. Parce qu'on veut essayer de sauver notre peau. » Pas du tout. Regardez le bel exemple qu'on a de ça, c'est Moïse. On est dans Hébreux. Reculez un peu à Hébreux 11. Hébreux chapitre 11 et le verset 24, c'est le cas de Moïse ici. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, parce qu'on sait que Moïse était un Hébreu. Ses parents l'avaient épargné, avaient épargné sa vie en le mettant dans un petit berceau qu'ils avaient mis sur le Nil, et la fille de Pharaon l'avait recueilli. Elle l'avait élevé à la cour, et il était même devenu un homme très important dans le royaume, probablement un des principaux généraux de Pharaon. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. À un moment donné, il y a eu un choix à faire. Il avait une vie extraordinaire, ou de retourner avec les Hébreux et de souffrir parce que leur vie n'était pas très, très intéressante. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon et d'avoir tous ses bénéfices. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps, la jouissance du péché. Et c'est toujours comme ça, le péché. Verset 26, il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Les yeux fixés sur la rémunération, comme le Christ qui a les yeux fixés sur le but qu'il a établi pour nous avec son Père. Moïse avait ces yeux-là. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. La foi de Christ. La foi avec les œuvres. Croire et agir. Allez dans Jacques chapitre 2, s'il vous plaît. Jacques chapitre 2, où il est clairement question de ça. Jacques chapitre 2, on va commencer à lire au verset 14. « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? » Non, juste croire, ça ne sauve personne. Absolument pas. Juste croire que Dieu existe, ça ne sauve personne. Personne ne pourra atteindre la vie éternelle en ne faisant que croire, mais en n'agissant pas en conséquence. Regardez le verset 17. « Il en est ainsi de la foi. » Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. C'est une foi morte, qui mène nulle part, qui n'a pas de fruit. Mais quelqu'un dira, « Toi, tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi avec mes œuvres. » Ça prend les deux. Et regardez bien, tu crois qu'il y a un seul Dieu? Là, il va dire, « T'es pas tout seul, tu fais bien. » Mais regardez tous ceux qui croient que Dieu existe. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Eux savent sans l'ombre d'un doute que Dieu existe. Ils ont été et ils sont régulièrement en contact avec lui directement. OK? Ils savent qu'il existe. Ils ont la foi, mais une foi morte. Ils n'ont pas les œuvres qu'on doit faire lorsqu'on appartient à Dieu et qu'on veut lui plaire. Au contraire, ils ont des œuvres totalement opposées. Alors, ils croient Dieu, mais ils ont peur, absolument. Verset 20, « Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi, sans les œuvres, elle est inutile? » Je reviens encore à ça. Alors, voyez-vous, dans tout ça, il faut revenir au fait d'avoir un cœur d'enfant, faire confiance à notre Père et faire ce que notre Père nous dit de faire. Demandez et vous recevrez. Demandez et vous recevrez. Et vous irez voir dans Luc 11, versets 9 à 13. Luc 11, simplement noter le verset peut-être. Luc 11, versets 9 à 13, il est dit ceci, qu'il faut demander pour recevoir. Verset 9, il dit, demandez et vous recevrez. J'ai besoin de la foi de Christ, il faut que je la demande. Et il faut que je la demande régulièrement pour la recevoir. Et ça dit au verset 13, le Père céleste donnera son Saint-Esprit à qui? À ceux qui le lui demandent. Et à ceux qui mettent en pratique ses voies, ses lois. Voyez-vous, Abraham était appelé le père des croyants. Il avait la foi, on l'a vu. Et pour ça, il était appelé ami de Dieu. Donc, voyez-vous, il avait une relation précieuse avec le gouverneur de l'univers. Pourquoi? Parce qu'il a rejeté la société autour de lui. Il a quitté. Il a abandonné ce qu'il devait abandonner selon l'ordre de Dieu. Il a rejeté la société autour de lui et ses fausses valeurs. Il n'a pas fait de compromis, même si ça lui a coûté cher. Et il a marché par la foi du Christ. C'est ce qu'Abraham a fait. C'est notre exemple. À ce moment-ci, vous le savez, on le voit par les événements, nous sommes aux portes d'un monde totalement nouveau, d'un monde meilleur, d'un monde gouverné par le Christ lui-même. Et d'ici là, Dieu va détruire tous les petits dieux de l'Égypte. Dieu va détruire tous les petits dieux de l'Égypte moderne, c'est-à-dire de nos sociétés. Dieu va détruire tout ce en quoi le monde met sa confiance et qui ne pourra pas le protéger, ni de la grande détresse, ni des plaies qui sont décrites dans le livre d'Apocalypse. Le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Dieu est avec nous quand nous sommes avec lui. Ça tourne autour de ce principe-là aussi. Et je termine en vous disant ceci, c'est à lui seul que nous pouvons faire entièrement confiance, pas par notre foi, mais par la foi du Christ que nous devons demander régulièrement et utiliser pour arriver au but.